Bonsoir, entrons dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, l'immigration n'est-elle l'affaire que des classes populaires? La déclaration du président de la République devant les élus de La République En Marche lundi, affirmant qu'il ne fallait pas pour La République En Marche apparaître comme un parti bourgeois, a provoqué des réactions au sein du parti majoritaire. Ces propos sont immédiatement apparus comme le signe de l'ouverture d'une nouvelle période du quinquennat, plus centrée sur les questions régaliennes. Ce soir, nous allons nous demander si effectivement les classes populaires sont plus touchées par la question de l'immigration, en compagnie de deux chercheurs, d'une élue et de Frédéric Lefebvre, ancien député et adhérent de LREM. L'élue, c'est Aïna Curic, qui est députée apparentée LREM de la deuxième circonscription de la Marne. William Berthomière sera avec nous en duplex depuis Poitiers, où il enseigne, géographe, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des migrations. Et il enquête actuellement sur l'installation des migrants dans le milieu rural au pied des Pyrénées, dans l'Ariège. Et Isabelle Coutant est avec nous ici en studio. Elle est sociologue, auteur des Migrants en bas de chez soi aux éditions du Seuil en 2018.
On va rentrer dans une phase d'élection. On commence par les municipales, mais on ne va plus s'arrêter jusqu'aux prochaines présidentielles. Donc là, il convient d'être particulièrement attentif à rassembler, mais pas aller chercher les extrêmes, et surtout pas cette façon-là. Et ne nous laissons pas piéger. On n'est toujours pas submergé par un flux migratoire quelconque. Ce n'est pas vrai.
Voici la déclaration de la députée La République En Marche d'Alsace, enregistrée par Rosalie Lafarge de France Culture, Martine Vonner, justement après le début de ce débat entamé par la déclaration du président de la République. C'était lundi. Bonsoir à vous, Frédéric Lefebvre. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ministre, vice-président de Agir et vous venez de rejoindre La République En Marche cette semaine même. Ça a été annoncé par toutes les agences de presse, en l'occurrence. Vous étiez très proche de Nicolas Sarkozy. Or, ce qu'on a dit d'Emmanuel Macron, en raison de cette déclaration de lundi devant les parlementaires de La République En Marche, c'est qu'il fait du Sarkozy. Il y a même un élu qui a dit qu'il a sorti le Karcher.
Oui, vous savez, j'ai l'habitude, parce que j'ai souvent entendu des caricatures sur à la fois d'ailleurs ce que nous avons pu faire à une époque. Moi, j'ai été conseiller Nicolas Sarkozy, notamment quand il était ministre de l'Intérieur. Et j'entends souvent des caricatures sur ce que peut faire ou peut dire l'actuel président de la République. Mais tout ça est assez convenu. La réalité, vous avez oublié juste un élément qui est un élément
important. J'en ai sûrement oublié beaucoup.
Non, mais un qui est très important par rapport à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, hein, c'est que j'ai quitté les Républicains.
Oui.
Je suis le premier, d'ailleurs, des élus, anciens ministres, à avoir quitté les Républicains. Justement parce que je considérais que mon ancienne famille politique était en train de dériver vers une forme de discours extrémiste. Je l'avais dénoncé, y compris d'ailleurs, et ça a été, pour ceux qui s'en souviennent, extrêmement tendu avec Nicolas Sarkozy, alors même que Nicolas Sarkozy était candidat à la primaire pour devenir président de la République, à l'intérieur des Républicains. Et je l'ai y compris écrit dans un livre que j'ai publié, où je l'ai détaillé, j'ai expliqué comment Laurent Wauquiez était en train de créer des passerelles avec l'extrême droite, avec Marion Maréchal Le Pen, et comment sur ces questions notamment, pas que, mais sur ces questions notamment, ils essayaient d'hystériser le débat. Donc vous voyez, vous imaginez bien que si aujourd'hui je rejoins La République En Marche pour justement marquer mon la soutien différence au président de la République, c'est pas parce que je souhaite qu'on hystérise le débat, bien au contraire. Je pense que sur cette question, et on va pouvoir en parler tous, je pense qu'on fait l'erreur en permanence, au lieu d'avoir des discours assez froids, finalement, pour regarder les faits, pour essayer de regarder les dispositifs. On a une forme de caricature qui est que dès qu'on parle de ces sujets ou qu'on y touche, vous avez un certain nombre de gens qui disent « il faut pas le faire, c'est raciste, c'est extrémiste ». Et à l'inverse, vous avez un certain nombre de gens qui en parlent en disant « il faut supprimer tous les dispositifs, l'immigration zéro ». Et la vérité, elle est évidemment entre tout ça.
Alors, vous avez en face de vous Aïna Curie. Vous vous serez croisée à La République En Marche, puisqu'elle a quitté La République En Marche alors qu'elle est élue apparentée La République En Marche de la 2e circonscription de la Marne au mois de juin. Vous venez d'arriver dans ce parti.
J'ai suivi ça, j'ai regardé
voilà.
Ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Frédéric Lefebvre, Aïna Curie? Et surtout, pourquoi avez-vous marqué déjà à d'autres moments, lors de la loi Asile-Immigration, vous avez fait partie de ceux qui ont voté non à cette loi lorsque ça a été voté. Vous n'avez pas pour autant quitté le parti à ce moment-là. Vous l'avez quitté plus récemment. Et vous avez commencé à vous exprimer. Vous n'avez pas signé ce texte qu'une quinzaine de parlementaires de La République En Marche ont mis en route et qui s'appelait donc pour une intégration réussie dans les territoires, mais vous en êtes proche. Pourquoi donc avez-vous décidé de reprendre la parole sur cette question de l'immigration après justement les déclarations du président de la République?
Alors, plusieurs choses, parce qu'il y a beaucoup de questions dans votre question.
Bah, il y a toujours beaucoup de questions dans mes questions. Vous
alors, il y a effectivement, je me suis opposée pour, et je m'étais exprimée à l'époque sur le sujet, ce pourquoi j'avais voté contre le texte de loi Asile et Immigration, justement parce que on a ce vrai problème de créer cette confusion-là entre le droit d'asile, qui à un moment donné va devoir retrouver ses lettres de noblesse, et l'immigration. Quelques mois plus tard, après ce texte de loi, on entend le président de la République dire que le texte Asile et Immigration est déjà obsolète. Ensuite, arrivent les élections européennes qui vont aussi changer la donne parce qu'il va falloir réformer le protocole Dublin, les accords de Genève, la circulation, la libre circulation dans l'espace Schengen, la gestion de nos frontières et de la Méditerranée. Et donc ensuite, nous arrivons à un moment de débat annuel sur l'immigration. Il fallait qu'il arrive ce débat. Il faut pas l'éviter. Effectivement, il ne faut pas laisser le débat de l'immigration uniquement à l'extrême droite, comme les débats. Il y a aucun sujet qui doit échapper à aucun parti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit regarder les choses en face. On doit faire un constat de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Il y a aussi la vision après ce qu'on attend, ce que moi, à titre personnel, j'attends. Le 30 septembre, c'est par contre d'avoir une vision claire sur la position du président de la République et du gouvernement sur les questions d'immigration.
Oui, parce que le 30 septembre s'ouvre un débat à l'Assemblée nationale, le 2 octobre au Sénat sur la politique ou les politiques migratoires à mettre en œuvre. Alors, vous avez en face de vous Isabelle Coutant, qui est sociologue. Vous êtes auteur, Isabelle Coutant, des migrants en bas de chez soi, au Seuil. C'est une enquête que vous avez menée dans un quartier de l'est nord-est parisien, du côté du 20e arrondissement, de la place des Fêtes. Pour ceux qui connaissent Paris, une enquête justement sur la place que tenait la cohabitation entre migrants et donc les habitants qui étaient là avant l'arrivée de ces migrants dans ce quartier-là. Est-ce que cette question qui est posée ainsi par le président de la République en disant « les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne croisent pas cette immigration, les classes populaires vivent avec, nous sommes comme les trois petits singes, on ne veut pas regarder », est-ce que cette question vous apparaît bien posée par le président de la République en tant que chercheuse et sociologue spécialiste justement de cette question de l'immigration dans les quartiers populaires de l'Est parisien?
Le fait que les classes populaires soient effectivement les premières à faire accueil des nouvelles catégories d'immigrés, c'est une réalité. De fait, déjà parce que 13% des employés sont des immigrés, plus de 10% des ouvriers sont des immigrés, alors que les proportions sont quand même moindres chez les cadres et encore moins chez les professions intermédiaires. Que près de 60% des hommes immigrés sont et 70% des femmes immigrées exercent des emplois populaires non qualifiés. Donc l'entremêlement immigration classe populaire,
on ne peut pas le nier.
Et ça fait partie de l'histoire de la France depuis le 19e siècle, plus d'ailleurs que de l'histoire des autres pays européens. Donc cette idée qu'il faut penser ensemble ces questions-là. Ça me pose pas problème en soi. Ce que je trouve un peu curieux, c'est à ce moment politique où justement cette question de l'immigration n'a pas été tellement portée par les mouvements de contestation sociale des Gilets jaunes, de vouloir réduire la question de ce que vivent les classes populaires à un problème d'immigration, ça m'interroge. Sachant que les revendications des derniers mois étaient plutôt des revendications sur les conditions de vie, conditions de, bon, déjà de pouvoir d'achat, aussi conditions, enfin, de transport, d'emploi. Donc, ce qui d'ailleurs pouvait paraître étonnant, qu'effectivement, du coup, la question, au moment même où il y avait la crise migratoire, que cette question n'apparaisse pas tant que ça dans les revendications des Gilets jaunes. Donc, je comprends pas tout à fait pourquoi c'est ce mode d'entrée poser la question des classes populaires qui est choisie aujourd'hui. Et après, bon, moi, ma thèse dans ce livre, c'est quand même, justement, mais je pense que j'ai pas en tête la même chose que ce qu'a le président, c'est qu'il faut quand même effectivement penser ensemble la cause des réfugiés et la cause des quartiers, parce que la fonction d'accueil, elle est de fait essentiellement exercée par les quartiers populaires.
Mais d'une certaine façon, ce que vous pensez, c'est que c'est justement ces quartiers populaires qui le font, cet accueil, et pas forcément qui rejettent ces nouveaux arrivants. Il y a des frictions, il y a des discussions, il y a des tensions, dites-vous, mais ils sont ensemble dans un même espace.
Oui, alors c'est pas forcément simple. Et puis, alors, dans ces quartiers populaires, en tout cas dans les grandes métropoles, vivent aussi une partie de la bourgeoisie intellectuelle. Il faudrait différencier aussi les différentes fractions de la bourgeoisie. Oui. Et du coup, les professions qui s'engagent le plus dans l'accueil des nouveaux arrivants, ce sont quand même plutôt les catégories intellectuelles et artistiques, et beaucoup des femmes qui se sont engagées depuis 2015, notamment dans l'accueil de mineurs isolés, pour suppléer aux défaillances de l'État. Donc, je ne sais pas ce qu'a le président en tête quand il parle des bourgeois des centres-villes, mais là aussi, il faudrait spécifier. Après, oui, il y a des frictions, et moi, je me suis intéressée aux formes de rejet dans l'environnement, notamment au sein des catégories populaires. Les causes du rejet, c'est assez variable. C'est pas forcément, en tout cas, dans ce type de quartier qui est aussi multiculturel à Paris, c'est rarement de la xénophobie. C'est beaucoup de la peur, mais c'est aussi justement cette idée qu'il y avait beaucoup l'idée « pourquoi toujours ici ?» C'est-à-dire, nous, on a déjà nos problèmes, nous, on fait déjà accueil, et pourquoi ça se passe ici et pas dans les beaux quartiers ?
Oui, je vais donner la parole à William Berthomier, qui n'est pas avec nous dans le studio, mais qui est chercheur, géographe, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des migrations et de l'installation justement des migrants dans des espaces ruraux. Nous tenions à vous avoir parce que c'est une autre question. Vous travaillez avec un groupe de recherche sur l'Ariège. Est-ce que ça se passe bien, mal, différemment de ce que vient de décrire Isabelle Coutant? Et puis je redonnerai la parole à Ina Kuric et à Frédéric Lefebvre ensuite.
Bonjour. Juste pour rebondir, effectivement, dans le cadre du monde rural, la situation est un peu différente, puisque le rapport à la question des exilés ou à ce qui a été défini comme la crise des réfugiés en 2015 a été plus soudain et plus subi. Effectivement, dans l'enquête que nous menons, nous cherchons à comprendre comment la question de l'asile prend place dans le monde rural. Et parallèlement à ce qui a été dit sur le monde urbain, en premier lieu, on n'observe pas de rejet de cette question et de cette prise en charge des populations dans le monde rural. Bien au contraire, puisqu'on a été dans nos enquêtes de terrain qui sont réalisées principalement en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, on a été frappé par la rapidité de la mise en place de collectifs et d'élans de solidarité envers ces demandeurs d'asile et la diversité des formes de soutien qui ont été exprimées. Ce qui peut différencier peut-être le monde rural du monde urbain, c'est effectivement que dans le monde urbain, les acteurs de cette prise en charge et de ce soutien aux demandeurs d'asile n'émanent pas principalement de catégories sociales supérieures. Et là, effectivement, les classes populaires du monde rural sont principalement à la manœuvre. Alors, effectivement, elles sont moins expertes. On n'a pas dans les collectifs, on observe des figures de l'expert militant. On est plus sur des gens qui tâtonnent et qui découvrent effectivement le soutien aux migrants et comment opérer dans le monde rural une mobilisation des moyens pour pouvoir arriver à un accueil qui soit correct et décent comme ils souhaitent l'opérer.
Aina Kuric et puis Frédéric Lefebvre.
Il y a quand même une évidence, c'est que l'acceptabilité en France de la part de nos concitoyens, elle va dépendre aussi de la qualité d'intégration, de la qualité de l'accueil, de permettre aussi à ces personnes de s'intégrer. Aujourd'hui, entre une famille arrivant sur notre territoire qui est rapidement prise en charge, logée, qui peut rapidement trouver un travail, ça ne va absolument pas gêner les riverains et les concitoyens que si vous avez des familles qui arrivent dans des tentes en bas de chez vous, je le vois à Reims, 80 personnes sous des tentes en bas d'un immeuble, ça devient insupportable pour la population. Donc c'est la qualité d'accueil, la qualité d'intégration, elle est essentielle. Et si on ne prend pas cette question-là à bras le corps, on n'arrivera pas à avoir un débat apaisé et un débat lucide sur les questions.
Frédéric Lefebvre.
Mais je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, tous d'ailleurs. Je pense que le débat doit être apaisé.
Ce qu'on essaye de faire ici, je ne sais pas si on y parvient, mais
enfin, en tout cas, j'en ai le sentiment. Mais je pense que sur cette question, il ne faut jamais oublier que on est au cœur de l'humain, que on est en plus sur des questions qui sont évidemment, chaque société doit lutter contre les dérives, les détournements de procédures, les filières. Mais il faut toujours faire extrêmement attention. Moi, je l'ai vécu quand j'étais au ministère de l'Intérieur, parce que j'avais pris à bras-le-corps un sujet avec Solidarité Sida, qui était la question justement sur l'accès aux soins d'étrangers en situation illégale, et où il y avait un durcissement en réalité de la législation qui était mise en place à l'époque, pour que surtout ça n'impacte pas la politique de la France, qui doit être en la matière extrêmement généreuse. Et c'est toute la difficulté. Mais c'est pourtant pour ça...
le président a mis en cause dans son discours de lundi l'AME, l'aide médicale.
Mais non, mais il a mis en cause. C'est là encore. Il ne faut pas. C'est là où je pense. J'ai aimé votre intervention, puisque vous avez eu l'honnêteté de dire je ne sais pas ce que le président de la République a en tête. Et c'est ça qui est très grave aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons.
C'est d'autant plus difficile de savoir que ça a été dit devant des parlementaires et ensuite rapporté.
Exactement.
Donc on n'a pas l'enregistrement.
Mais ça n'a pas empêché qu'on se retrouve avec une sorte de débat un peu hystérisé, où tout d'un coup on a expliqué qu'il disait ça simplement pour essayer de contrer le Front National, Rassemblement National maintenant, enfin c'est la même chose, et voir certains qui lui prêtaient l'idée d'appliquer ou de tenir le même discours. Franchement, je n'ai absolument pas entendu, dans ce qu'a dit le président de la République, un tel discours. Quand, de manière très objective, vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement tout à l'heure, la connexion entre quartier populaire et immigration, elle est évidente. Et en même temps, et c'était intéressant le témoignage qu'il y a eu tout à l'heure sur le rural, moi j'étais en Normandie, donc vous voyez, c'était pas la même région, mais c'était intéressant de voir, puisque je suis arrivé à un moment où, justement, dans un déplacement que je faisais, il y avait un certain nombre d'élus et de responsables associatifs qui essayaient de rassurer un certain nombre de villageois sur l'arrivée d'un certain nombre de migrants. La préfecture avait décidé que dans ce village arrivaient des migrants. Et ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, nombre des gens qui étaient là y ont vu des aspects positifs. C'est-à-dire, il y en a qui ont imaginé, est-ce que ça ne va pas nous permettre justement d'éviter la suppression d'une classe dans l'école ? D'autres qui disaient, on a une problématique sur l'équipe de foot. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en réalité, si on arrête d'hystériser, qu'on vient sur l'humain...
Et de remettre des réalités.
Et tout d'un coup, on a ce qui est assez naturel, et qu'on perd peut-être en ville, l'aspect de solidarité qui joue... J'aurai l'occasion, oui. Et parce que c'est important qu'on parle de tous les sujets, mais j'en parlerai tout à l'heure. J'ai eu un gros problème avec Nicolas Sarkozy en 2007, il venait d'être élu président. Quand j'ai fait voter un amendement qui m'a valu deux fois la une du monde d'ailleurs, pour permettre la légalisation, pour des motifs de travail, de travailleurs en situation irrégulière en France.
Vous parliez à l'instant même de solidarité. Aïna Kuric, dans le texte qu'ont signé donc une quinzaine de députés et LREM après justement cette intervention du président pour une intégration réussie dans les territoires, ils disent la loi asile-immigration prévoyait une solidarité des territoires. Où en est-on? Cette question de solidarité des territoires, c'est important parce que ce que décrit Isabelle Coutant et ce que décrit aussi William Berthomière, ce qu'ils décrivent dans leur travail de chercheurs et de chercheuses, c'est justement, est-ce qu'on est tout seul pour pouvoir tenir devant l'arrivée d'un certain nombre de populations, de familles qui arrivent et qu'il faut accueillir? Est-ce qu'on est aidé par les préfectures? Est-ce qu'on est par des départements, par les régions, etc. pour le faire, en l'occurrence, Aïna Kuric?
Alors, la solidarité des territoires, elle est certes importante, et je partage un grand nombre de choses qui sont dites dans cette tribune, bien que je ne l'ai pas signée. Pour autant, cette solidarité-là, elle va aller d'abord dans une évolution du discours. Le discours anxiogène que nous avons en ce moment, où on nous parle de crise, de vagues, d'invasion, toutes ces choses-là, ce discours-là crispe la population. Quand on sait que finalement aujourd'hui la majorité des populations africaines se déplacent dans le continent africain et c'est également la même chose en Europe. Quand on nous parle il y a quelques années d'une énorme vague et qu'on a 1 million de personnes qui arrivent sur un territoire qui en compte 500 millions, on n'est pas du tout dans les dimensions qu'on entend. Donc c'est déjà le discours, c'est on a une inquiétude de départ parce qu'on nous a déjà mis dans une position d'inquiétude et de moments graves. Hier, j'ai organisé un débat à Reims avec des bénévoles, des travailleurs sociaux qui ne demandent que ça, de pouvoir aider. Et pour ça, on doit les aider à aider. Et ça dépend aussi un petit peu des territoires. Vous savez quasiment dans chaque article de cette loi Asile et Migration, ça se termine par « le préfet appréciera », ce qui veut bien dire qu'en fonction des territoires, nous n'aurons pas toujours les mêmes possibilités, les mêmes leviers, et en particulier pour l'autorisation de travail, qui est un des leviers les plus efficaces d'intégration, d'apprentissage de la langue, d'entrer dans la société, de commencer à cotiser, de pouvoir le faire en toute légalité. Ne marginalisons pas ces personnes-là en les poussant à être dans l'illégalité quand on sait qu'il y a une intégration possible.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
À 18h42, un temps du débat qui pose la question « L'immigration n'est-elle l'affaire que des classes populaires ?» en compagnie de Aïna Curic, députée apparentée La République En Marche de la 2e circonscription de la Marne, de Frédéric Lefebvre, ancien ministre, vice-président de Agir et qui vient de rejoindre La République En Marche, de William Berthomière, géographe, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des migrations, et de Isabelle Coutan, sociologue, auteur des « Migrants en bas de chez soi ». Est-ce que vous vous posez la question, Isabelle Coutan, de vos travaux, de leur réception en tant que chercheuse en sciences humaines, par justement les dirigeants politiques, par est-ce que vous avez l'impression que pour passer du temps sur des terrains qui sont parcourus par ailleurs par les élus, bien évidemment, vous avez des solutions à leur proposer, des regards à porter qui peuvent justement permettre qu'un débat non hystérisé, comme le disait Frédéric Lefebvre, se mette en place?
Je ne sais pas si les politiques lisent nos travaux. Je pense que un certain nombre de personnes qui les entourent et les conseillent probablement
devraient le faire au moins.
Oui, je pense que parfois nous lisent. Dans une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire des sciences sociales, c'est aussi pour que c'est un potentiel effet politique. Je suis très, j'ai appris la sociologie en lisant Durkheim, mais voilà, qui a aussi conçu la sociologie comme un appui de la mise en place de la République. Donc je pense que je suis imprégnée de cette idée que ça doit servir à quelque chose. Après, c'est sûr que quand on fait des enquêtes approfondies, le réel, il est complexe. Et donc, c'est difficile de proposer des solutions simples. Peut-être que justement, une des choses sur lesquelles on peut être utile, c'est d'éviter les fantasmes, d'éviter l'hystérie et de permettre effectivement des discours. En tout cas, sur ces thèmes-là, il faut effectivement des discours...
Beaucoup de nuances.
Beaucoup de nuances et de calme. Et un des enjeux sur les gens qui sont mobilisés auprès des migrants, donc qui squattaient un bâtiment dans le quartier, parmi les catégories qui sont impliquées,
c'était... Dans le quartier du Nord-Est parisien,
voilà, dont on travaillait. Les gens, notamment de l'immeuble de la grande barre de logements sociaux voisine qui se sont impliqués, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de fantasmes et de rumeurs qui circulaient parmi leurs voisins par rapport à l'occupation du bâtiment et ce qui s'y passait. Et donc des gens du voisinage sont rentrés avec cette idée, ils se sont donnés pour mission aussi, pour pas que la situation soit instrumentalisée par l'extrême droite. Parce qu'il faut savoir que ce bâtiment occupé faisait juste face au collège du quartier, donc c'était angoissant aussi pour les familles. C'était l'idée de casser les fantasmes et les rumeurs, de transmettre une information sur ce qui se passait réellement. Et donc je pense que nous, notre rôle aussi de scientifiques, voilà, nous on étudie des faits, l'immigration pour nous c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Et par rapport auquel on essaie de recueillir des données. Et après, ça, effectivement, ça, il faudrait que ce soit utilisé par les politiques pour penser.
William Berthomière, vous avez cette même impression. On sait que vous travaillez sur un espace rural, qu'on a beaucoup parlé, et d'autres géographes que vous, de France périphérique. Le moment des Gilets jaunes a mis en évidence, justement, des fractures territoriales importantes, et en particulier dans le monde rural, liées à des modes de vie, des difficultés de vivre au quotidien avec des salaires très, très bas et peut-être une désespérance rurale particulière. Qu'est-ce que vous dites aussi de votre rôle dans un débat comme celui-ci? Vous êtes spécialiste des migrations. Je n'ai pas dit que vous avez travaillé sur l'immigration des Russes en Israël, par exemple. Vous avez travaillé sur des migrations en général, en dirigeant en particulier un laboratoire sur les migrations internationales.
Oui, effectivement, la spécificité peut-être des études dans le monde rural, c'est qu'effectivement, l'aspect plus réduit, la visibilité du chercheur sur son terrain, fait qu'il est énormément sollicité pour d'une certaine manière, donner la bonne parole. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc.
Vous voulez dire qu'on vient vous voir en tant que chercheur quand vous êtes sur le terrain en disant ben voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que voilà. Vous pouvez me conseiller?
Notre travail, c'est avant tout l'immersion dans le terrain. Donc on passe des semaines et des mois, là maintenant depuis 3 années, dans le cadre de ce programme de recherche dirigé par l'équipe migrataire de Poitiers. On passe des semaines sur le terrain et notamment à assister à des réunions de collectifs, d'associations en soutien aux exilés.
Vous pourriez presque vous faire élire à force de parcourir le terrain. Vous allez avoir une aura telle que vous pourriez vous présenter aux élections.
Oui, c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est et à la fois qui nous demande toujours un travail réflexif, c'est que très rapidement, dans les débats d'associations, on se tourne vers le chercheur pour demander est-ce que vous pensez que notre position est juste, est-ce qu'on a raison d'aller dans ce sens, etc. Alors ça, c'est quand même toujours quelque chose de délicat, et surtout, le rôle du chercheur, c'est de bien mettre en avant qu'il y a véritablement un savoir-faire associatif en France, dans plein de domaines, ça s'est vérifié, on le sait tous, mais il y a un savoir-faire associatif en termes de migration. Le monde rural, par exemple, a très vite capitalisé sur sa capacité à faire avec les moyens disponibles localement pour venir en aide aux exilés. Il y a peut-être effectivement beaucoup plus de moyens, beaucoup moins de moyens dans le monde rural, beaucoup moins de capitaux à mobiliser pour pouvoir venir en aide très rapidement aux demandeurs d'asile et à leur famille, à leurs besoins. Mais là, ce qui est très important de voir, c'est que la solidarité qui s'exerce dans le monde rural aujourd'hui, elle est double. Elle est à la fois en faveur des exilés, mais on pourrait dire qu'elle est aussi en faveur de l'État. Parce que l'administration de l'asile aujourd'hui dans le monde rural ne pourrait se faire sans les bénévoles, sans les personnes engagées localement auprès des exilés, qui aujourd'hui conduit sur des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres les demandeurs d'asile au rendez-vous à la préfecture qui est située à l'autre bout du département, qui les amène au rendez-vous médical au CHU qui est effectivement encore lui à 50 kilomètres du lieu d'installation du centre d'accueil. Ouais. Donc en fait, c'est très intéressant à observer et à mettre en avant. Parce que, en fait, on peut dire aujourd'hui que l'administration de l'asile repose en partie, dans le monde rural, sur le bénévolat et l'engagement des populations rurales, ouais, qui notamment sont elles-mêmes confrontées au fait que l'hôpital est à distance, eh oui, également pour eux. Donc il y a effectivement un savoir-vivre avec les conditions locales, et ça c'est très important, et la question de la suite, parce que nous on est en train aujourd'hui d'observer l'administration de l'asile, ces gens qui sont dans des centres d'accueil qui ont été développés dans le monde rural. Mais la question de l'intégration, effectivement, dont les signataires de la tribune, des membres de LREM, ont évoqué la question de cette intégration, là aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'associatifs se posent la question, comment pouvons-nous, une fois arrivés à terme et une fois arrivés à l'obtention d'un statut, garder ces populations dans le monde rural pour pouvoir leur permettre de participer au développement,
eh oui,
C'est tout le territoire.
Ouais, je passe la parole à Ina Kuric, s'il vous plaît. William Bortenmeier, je vous la rendrai ensuite. Ina Kuric, puis Frédéric Lefebvre.
Alors, oui, effectivement.
Vous souriez à ce que disait William Bortenmeier, parce que ça vous rappelait des choses.
Ça me fait sourire parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de déplacements dans la préparation de ce débat mener différents travaux, justement, pour faire des propositions, parce qu'il n'était pas, c'était pas tout de voter contre un texte de loi, c'était aussi de démontrer qu'il y avait des outils
qui ont fait preuve. La loi Asile et Immigration, l'année dernière.
Et c'était aussi de faire des propositions pour démontrer qu'il y avait des outils qui ont fait preuve d'une certaine inefficacité. C'est tout à fait vrai, les associations, aujourd'hui, elles prennent le relais là où l'État fait défaut. Mais ça, c'est pas que sur les questions d'asile ou d'immigration, c'est sur à peu près tous les sujets. Et quand on voit que ces outils-là ne fonctionnent pas, par exemple, quand on a justement et sur la sujet d'intégration, on a une autorisation, enfin, quand on obtient un statut, on a le droit de travailler 6 mois plus tard. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces personnes? Comment est-ce qu'on fait? Qui vit pendant 6 mois sans revenu, sans pouvoir travailler? Il y a un déplacement que j'ai fait dans le sud-ouest de la France, où on voit une vraie coopération lorsque l'État accepte de travailler avec la collectivité, la municipalité, et avec des collectifs de citoyens. Et on voit que finalement, ça peut marcher. Ça peut marcher si véritablement il y a une volonté humaine. Mais est-ce qu'il y a toujours la volonté humaine de vouloir faire en sorte que cela se passe bien? C'est pas toujours le cas.
Frédéric Lefebvre, est-ce que vous pensez justement qu'on peut sortir de ces formules simplistes, de ces beaux slogans qui, malheureusement, c'est aussi le propre de la vie politique et de la vie médiatique, font florescer dans des moments de crise ou dans des moments de tension un peu particuliers?
Je le pense, et c'est pour cela que je défends, comme vous venez de le faire d'ailleurs, le fait qu'il y ait un débat. Et finalement, c'est ce que moi j'ai retenu de ce qu'a dit le président de la République, c'est que, à force de considérer que sur un sujet comme celui-là, on ne le met pas en débat, on n'a pas la capacité d'objectiver les choses. Vous l'avez très bien raconté finalement quand vous parliez du terrain tout à l'heure, en disant qu'il y a une partie des citoyens qui ont voulu aller constater sur place, s'éloigner des fantasmes, et ensuite être en capacité de dire aux autres, rassurez-vous, mais ils auraient pu dire sur tel sujet, inquiétons-nous. Mmh. Et je crois que c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est la responsabilité d'élus humanistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, de sortir de ce qui malheureusement dicte une partie du rythme des campagnes électorales depuis très longtemps, avec le phénomène qu'on a vu et qui relie aux classes populaires. Regardez comme le Parti communiste, par exemple. Il suffit de regarder la carte électorale, il y a des chercheurs qui ont parfaitement fait ça. Et de regarder comme le Front National a prospéré dans un certain nombre...
Pas toujours, les chercheurs ont dit aussi...
Jamais dit.
Ils ont nuancé, c'est moi là. Voilà.
Est-ce que je suis en train de dire
non,
toujours?
Non, non.
Au contraire, sûr, voilà. Je dis qu'ils ont souligné que dans un certain nombre de cas, le Front National avait prospéré dans des zones extrêmement populaires parce qu'ils avaient le sentiment que justement les élus en place, qui en l'occurrence étaient communistes, étaient dans une forme de déni sur les difficultés qu'ils rencontraient. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire. Dire... L'immigration, c'est tout rose, c'est formidable, c'est une chance extraordinaire, c'est ridicule. Dire l'immigration, c'est terrible, c'est le drame pour... c'est tout aussi ridicule. Voilà. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver de manière saine.
Effectivement, la réponse, elle n'est pas binaire sur les questions d'immigration. Elle est aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait qu'on a de vraies difficultés à faire accepter dans l'opinion publique et à enlever justement ce discours anxiogène-là? C'est de pouvoir déjà loger et la mise à l'abri des personnes qui arrivent sur notre territoire. Ça n'est pas une question de nombre, parce qu'il n'y a pas cette vague, mais c'est d'être capable de mettre à l'abri, et cela de manière universelle, toute personne qui se retrouve dans une situation vulnérable. Aujourd'hui, la question du logement, elle se pose. Aujourd'hui, le mécanisme qui est mis en place pour les CADA ou les hébergements d'urgence, il n'a pas fait preuve d'efficacité. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de logement. Dans un département où, dans certaines parties, nous avons 60% de logements vacants, de logements sociaux vacants, ou 10% de logements vacants dans la plus grande ville du département, et on arrive encore à avoir des centaines de personnes à la rue. C'est pas normal. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi avoir cette volonté politique. Et ce qui m'interroge, moi, aujourd'hui, c'est quelle est cette volonté politique de la part du gouvernement et du président de la République dans cette politique d'accueil. Quand on parle de quotas, quand on parle de la remise en question de l'AME, ce sont des sujets qui n'apportent pas de réponse concrète. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. la remettre en question serait une erreur. J'ai entendu la ministre Buzyn faire part, en tout cas, de son souhait de ne pas y toucher, mmh. et ça me rassure grandement, parce qu'il s'agit aussi de santé publique, il s'agit du bien-être des personnes que l'on accueille, et il s'agit aussi du bien-être de nos concitoyens, de ceux qui vivent avec tous ces gens-là.
Isabelle Coutant, en tant que chercheuse et sociologue ayant travaillé sur le quartier, donc autour de la place des Fêtes à Paris, et donc la cohabitation des populations diverses, on a l'impression que ce qui est important quand on lit des chercheuses et des chercheurs comme vous ou William Berthomière, c'est de s'intéresser aux détails. Or, on a l'impression que le discours, généralement, et Frédéric Lefebvre le faisait remarquer, a tendance à rassembler en grands blocs et à opposer des grands blocs. Qu'est-ce que vous diriez justement de cette attention aux détails qui est le propre des chercheurs en sciences sociales, passer du temps sur un terrain, s'apercevoir que les situations sont complexes et qu'il faut donc faire comprendre aux citoyens, aux élus, aux responsables politiques, que ces situations sont complexes. Brièvement, Isabelle Coutant.
Une des choses, moi, qui m'a perturbée dans l'enquête que j'ai faite, c'est que en tant que sociologue, j'arrivais pas à faire une grande catégorie des gens qui étaient dans le rejet, qui ne supportaient pas cette situation, qui étaient les plus hostiles aux migrants. Et j'arrivais pas à dire c'est telle catégorie sociale, c'est tel niveau de diplôme, c'est ouais. telle...
Vous pouviez pas les rentrer
dans voilà, ça rentrait pas dans une case globale et je voyais pas ce qu'ils avaient en commun. Donc d'ailleurs, le chapitre qui parle du rejet des migrants, c'est un chapitre où j'ai écrit une série de portraits. Mais en fait, en écrivant ces portraits, j'ai réalisé que ce qu'ils avaient en commun, tous ces gens, et qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, ambivalents, donc là aussi, rien de binaire, c'est-à-dire qu'il y a... Et qui parlaient de leurs contradictions.
Ils sont des humains comme nous.
Voilà, et donc il y avait notamment une femme qui était dans un discours très hostile, et en fin d'entretien, elle finit par dire que son compagnon est musulman pratiquant, alors qu'elle avait fait tout un discours...
De rejet.
De grande anxiété par rapport à l'islam. Donc voilà, il y en avait plein, des choses comme ça. Où, en tout cas, l'arrivée de l'étranger, ça fait peur et c'est normal. Parce que l'arrivée de l'étranger, c'est une intrusion. Et après la peur, voilà, il peut se passer autre chose. Et c'est cette idée aussi, voilà, c'est comme une greffe, il faut du temps pour que ça prenne. Donc la réaction première, c'est la peur. Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à la dépasser? Qu'est-ce qui fait que d'autres n'y arrivent pas? Ce qu'avaient en commun ces gens qui étaient dans le rejet, c'était une forme de vulnérabilité et d'isolement plus grand que les autres. Ils n'avaient pas une sociabilité, soit parce qu'ils vieillissaient et qu'ils avaient perdu un peu leur univers d'appartenance, soit pour plein de raisons, soit certains étaient eux-mêmes immigrés naturalisés. Et donc ils avaient une vulnérabilité et donc en fait ils se sentaient immédiatement menacés avec une peur aussi de déclassement très fort par l'arrivée des migrants.
Merci Isabelle Coutant. Très brièvement Frédéric.
Très important ce que vous dites parce que, et ça fait référence à ce que vous disiez sur le logement.
Ce que disait Aina Kuric.
Quand par exemple vous avez une problématique absolument considérable de logement, notamment de logement des gens les plus démunis dans un pays comme la France, que vous avez la question des SDF, que vous avez en même temps la question de l'arrivée de migrants avec des solutions qui sont mobilisées très rapidement, ça peut créer le sentiment chez des gens qui sont dans les situations les plus faibles. Il ne faut pas nier ces réalités-là, le sentiment d'une forme d'injustice. Parce qu'ils ont l'impression que pour eux, il n'y a pas de solution et que le système ne se met pas en branle. Alors que tout d'un coup, pour des gens qui sont étrangers, le système se met en branle. Et c'est sur ces questions-là, ça veut dire que, en fait, la problématique, elle est globale du logement.
Aina Kuric, très brièvement.
Et que l'on n'oublie pas, quand le président de la République parle de fermeté et d'humanité, n'oublions pas que c'est l'efficacité qui nous permettra d'accepter vraiment cette question et de mener un débat serein.
Merci beaucoup et vous pourrez demain écouter à 8h15 dans la matinale du samedi de Caroline Brouet un débat, une discussion, un entretien avec Monique Chemillé-Gendreau, professeure émérite de droit public, sur comment faire une société juste et bonne, après le discours d'Emmanuel Macron, sur l'immigration. Merci à tous les quatre d'avoir participé sereinement à ce débat et on espère que les débats le seront à partir du 30 prochain puisqu'il y a ce grand débat sur les politiques migratoires qui va être lancé à l'Assemblée nationale. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. À la technique Clément Daté, à la vidéo Morgane Danan et à la réalisation Thomas Duterre.